à tous et bienvenue dans l'épisode 3 d'Alternative Numérique, l'actualité numérique vue par les entrepreneurs du secteur. Je suis en compagnie de trois d'entre eux justement, Mathieu Hugues, CEO de Tilkal, une solution de traçabilité et de transparence pour les supply chains basée sur la blockchain. Bonjour Mathieu.
Bonjour Bernard.
De Valentin Przulski, CEO de Netframe, qui propose une plateforme collaborative pour les professionnels. Également, bonjour Valentin.
Bonjour Benoît.
Et je suis accompagné de mon compagnon de toujours qui sur les podcasts, Alain Garnier, cofondateur et CEO de JSpot, qui propose également des solutions de plateforme collaborative et de digital workplace pour les professionnels. Bonjour Alain.
Bonjour Benoît et bonjour à tous. Ravi d'être avec vous pour ce podcast.
Et oui, mais bonjour messieurs, alors ça fait un moment depuis le dernier épisode, depuis l'épisode 2, je ne saurais pas dire exactement depuis quand, mais en tout cas ravi d'être avec vous pour ce troisième épisode. On est ensemble environ pour entre 1h et 1h30 en fonction, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, en fonction de ce que vous avez à partager à nos auditeurs. Alors au niveau du programme, donc ça c'est surtout pour nos éditeurs bien sûr, ce podcast sera divisé du coup en trois sujets. Le premier sujet ce sera l'Europe et le numérique, où en est le vieux continent au niveau du numérique, au niveau de la data, au niveau de la souveraineté numérique. Et est-ce que l'Europe, la grande question, doit-elle abandonner le numérique et se concentrer sur autre chose? C'est la question que je poserai à mes invités. On enchaînera ensuite sur la relation entre numérique et progrès. Le numérique est-il forcément synonyme de progrès? On sait qu'il est synonyme d'innovation, ça oui, mais est-ce qu'il est forcément synonyme de progrès? C'est la grande question. J'ai envie de vous dire que vous avez 4 heures, mais ce sera peut-être un petit peu long. Et on terminera avec l'élément avec lequel on avait également terminé l'épisode 2 d'Alternative Numérique la dernière fois, à savoir le sujet surprise d'Alain. Alain qui a sélectionné pour Mathieu et Valentin un sujet d'actualité, voilà, un sujet mystère, et qu'il partagera à nos invités pour conclure ce podcast. Alors messieurs, si vous êtes prêts, je vous propose de commencer dès maintenant avec notre sujet à la une, le gros sujet, le gros morceau de cet épisode, qui est l'Europe et le numérique. Où en est le vieux continent par rapport au numérique? Quel bilan peut-on faire de la situation cette fin d'année 2023? Quels sont les projets en cours au niveau des textes de loi, au niveau de la souveraineté numérique? Et que peut-on attendre ou même espérer en termes d'avancée sur le sujet pour 2024 et même d'ailleurs pour les années suivantes? Alors j'aimerais commencer, pour entrer dans le vif du sujet, par toi Valentin, parce qu'on a demandé à nos invités bien sûr quels sont les sujets un peu d'actualité qu'ils ressentent, qu'ils veulent aborder, et c'est Valentin qui a posé la question, l'Europe doit-elle abandonner le numérique pour finalement se concentrer sur autre chose? Alors Valentin, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta vision? Est-ce que je sens une forme de résignation par rapport à cette question? Est-ce que ça veut dire que l'Europe n'a pas compris les enjeux existants autour du numérique? Est-ce qu'elle n'a pas su saisir les opportunités? Est-ce que ça y est, la coupe est pleine, il faut passer à autre chose? Qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Oui, alors ça, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur sur la question de la souveraineté numérique. Est-ce que notre continent est capable de produire une industrie numérique, on va dire, avec une forme d'autonomie stratégique, un poids économique suffisant, une qualité conforme à nos valeurs, à nos valeurs sociales, économiques, environnementales, c'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de peser dans ce domaine? Alors la question, elle vient aussi par rapport au fait qu'on a d'autres domaines sur lesquels on pèse vraiment très bien. On est très fort en tourisme, au niveau environnemental, l'Europe se défend très bien. L'industrie du luxe, de l'art de vivre à la française, par exemple, on a l'aéronautique. On a des choses qui se passent très bien, puis on a l'impression que le numérique, quelque part, malgré tous les efforts, eh bien, ça patine d'un point de vue industriel. Alors l'Europe nous a gratifié cette année, pour revenir un peu sur l'année écoulée, de textes, le DSA, le DMA, le Data Act, l'IA Act bientôt, le Cyber Resilience Act, la directive NIS, cybersécurité, qui va être appliquée bientôt. Bref, ce n'est pas les textes qui manquent, avec une certaine profusion de textes, avec des choses, on peut en débattre, mais avec des bonnes choses, des choses assez fortes, le DSA, le DMA, des déceptions comme à chaque fois dans la régulation. Mais le constat quand même au niveau des entreprises qui pèsent est quand même un peu différent. On arrive aujourd'hui après une dizaine d'années, quinzaine d'années de gros efforts sur le sujet, au niveau de l'entrepreneuriat, ces 15 ans ont été bénéfiques. Il y a plein de gens qui ont monté des entreprises. On sent que c'est quelque chose qui est rentré culturellement dans les mœurs, hein, et ça, c'est très positif. Mais par contre, on constate aussi beaucoup d'entreprises, on va dire, qui ont réinventé des segments de commerce, qui ont pris la place de distributeurs nationaux, dans les mutuelles, dans les banques, des choses comme ça. On voit aussi beaucoup de freelance, une profusion de grosses hackers, de freelanceurs avec plein de tips LinkedIn qui arrivent. Et on voit un peu moins d'entreprises dans le dur qui auraient créé, on va dire, quelque chose d'important au niveau même européen ou mondial. Et quand on regarde, eh bien, les introductions en bourse, notamment Deezer, Blablacar, c'est toujours pas le cas. Deezer, c'est très moyen. Dailymotion, c'est dans les oubliettes. Et on a finalement un peu l'impression que tout cet effort, du point de vue de l'industrie numérique, logicielle, hardware, n'a pas produit grand-chose. Hein, on a eu beaucoup de disruptions d'usage, de disruptions commerciales. Mais au final, si on réfléchit à l'industrie numérique d'un point de vue stratégique, d'un point de vue poids dans le monde, l'Europe est clairement à la traîne et les efforts des 10 dernières années n'ont amené pas grand-chose. Et comme on sait que finalement le monde est affaire de choix, que la France est une nation de 65 millions d'habitants, l'Europe c'est 400 millions de personnes, peut-être faut-il se dire que nous sommes forts dans d'autres endroits, que c'est très bien que le tourisme soit très fort, que c'est très bien que l'agriculture soit encore quelque chose qui fonctionne. Et peut-être que finalement le numérique, c'est pas notre truc. Voilà, nous, notre truc, c'est de proposer la manière de le réguler dans le monde, mais c'est pas de le faire. Voilà. Donc c'est peut-être provocant, mais parfois sur les grandes questions, sur les grands équilibres économiques, on peut légitimement se poser la question de faut-il persévérer, faire persévérer cet effort? Et si on persévère, faut-il persévérer comme ça? Ou faut-il tout changer? Moi, je fais un bilan très négatif de la tentative de Silicon Valley européenne. Je pense qu'on n'a pas la Silicon Valley et qu'on n'a pas trouvé le modèle européen. Et donc, soit on change, soit on va être dans un constat d'échec qui va continuer peut-être sur la décennie suivante.
Alain, Mathieu, vous partagez un peu le constat de Valentin, peut-être avec un peu plus de nuances. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Alain, je vois que tu veux peut-être te lancer sur le sujet. Dis-nous.
Ah ben, moi, je pense que justement, alors là, pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec Valentin sur cette proposition. Même si dans tout ce qu'il dit, quelque part, c'est vrai. C'est ça qui est intéressant. Il y a pas des choses sur lesquelles je pourrais dire non, mais là, il dit quelque chose d'absurde, je vais vous le démontrer, mesdames et messieurs. Par contre, je peux dire plusieurs choses. Un, on a déjà connu ça. Quand on regarde le problème qu'on a eu sur l'énergie avec le pétrole, on a déjà eu ce problème-là et on peut se rappeler des plateaux de télé, parce qu'à l'époque c'était ça qu'il y avait, où des gens disaient « Ah, mais on n'y arrivera jamais, on n'y arrivera jamais ». Pareil pour les telcos. Pareil pour l'aéronautique. À un moment donné, on n'avait pas un seul avion qui volait, qu'on n'était pas capable d'en produire. Pareil pour la voiture, où à un moment donné, on pensait que les voitures étaient mortes, que Renault, de toute façon, il valait rien, que c'était des bagnoles pourries par rapport aux bagnoles japonaises, qu'on s'en sortirait jamais. Quand on regarde aujourd'hui, on a réussi, sur ces domaines-là, à faire quelque chose. Donc ça, déjà, c'est pour dire aussi que c'est peut-être, enfin, que c'est déjà arrivé. Deux, que c'est que le début. D'ailleurs, Valentin a bien cité tous les textes. Les textes européens sont maintenant. Leurs applications, c'est maintenant. L'échelle de l'Europe, c'est 5-10 ans. Donc, un texte d'aujourd'hui, ça a un effet à 10-15 ans. Donc, la question, en fait, de l'effort, c'est 15 ans. Après, moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut se permettre de ne pas avoir de stratégie numérique? Moi, je pense que ne pas avoir d'éléments dans le numérique, laisser ça à d'autres, c'est se vassaliser dans le monde. Alors, ça, c'est clair. Moi, j'ai vraiment cette conviction par rapport à ça. Et je pense qu'on est aussi dans une hystérie numérique. C'est-à-dire que le numérique dit... tout va vite. On mesure, par exemple, la vitesse à laquelle la ChatGPT est arrivée avec 100 millions d'utilisateurs en plus court. Donc, la question, c'est espèce d'impact sur la vitesse, alors qu'en fait, la réalité, on a fait une autre étude, par exemple, là, sur les outils bureautiques. Qu'est-ce qui ressort? C'est encore la messagerie qui est devant, le mail, depuis 40 ans. Donc, d'un côté, on a une hystérie dans le temps, et de l'autre, en fait, on a des effets long terme à 40 ans. Et donc, cette hystérie et que les Américains savent très bien utiliser font que dès qu'ils chopent un nouveau territoire, ils disent « c'est à nous, vous n'y arriverez jamais, de toute façon, vous n'y arriverez jamais, donc c'est fini, il faut arrêter ». Et donc, il y a une espèce d'hystérie comme ça de justement pas essayer de reconquérir. Donc, pour moi, c'est surtout pas ce qu'il faut faire en termes de choix stratégiques. Par contre, quand Valentin dit est-ce qu'on doit persévérer comme ça parce que j'ai l'impression que ça ne produit pas grand-chose, et là, il a un peu raison. C'est-à-dire qu'en gros, le modèle de suiveur, notre modèle qui est derrière, n'est pas un modèle aujourd'hui qui permet de construire assez vite pour justement trouver une autre voie qui ferait que cette hystérie, par exemple, on pourrait la laisser de côté. Et aujourd'hui, on est encore dans cette hystérie. Et donc, évidemment, elle ne nous est pas favorable, vu que ce n'est pas nous qui avons ni les cordons de la bourse, ni ce n'est pas nous les champions du bal, ni nous qui avons justement les DJ derrière les platines. Donc, effectivement, dans ces cas-là, tu es juste là, tu viens, et puis tu essayes de rentrer un peu, et tu t'assois et t'attends, quoi. Donc, oui, il faut changer notre rapport à ces questions-là. Mais par contre, il ne faut surtout pas abandonner le combat.
Mathieu, tu veux rebondir justement par rapport à ça?
Ouais. Valentin a lancé le débat très fort. Je suis d'accord avec Alain que c'est intéressant de poser la question. En fait, il y a plusieurs choses. La première, c'est le constat que fait Valentin, qui est effectivement une évidence, quoi. Est-ce que l'Europe est forte numériquement? Non. Après, il y a plusieurs questions. Est-ce que du coup, il faut en déduire? Il y a une question sur pourquoi, et ensuite, est-ce qu'il faut en déduire qu'on doit abandonner le combat? Moi, je crois qu'il n'y a jamais de fin de l'histoire. Je vois des choses un peu l'anti-Fukuyama, quoi. Je pense que de l'autre côté, la fin de l'histoire, c'est toujours un piège, quoi. C'est toujours le plus fort qui dit « l'histoire est terminée, arrêtez de jouer, les gars ». Ouais, la réalité, c'est que quoi qu'en ait dit Fukuyama, l'histoire n'est pas terminée, et les États-Unis aujourd'hui sont même une hyperpuissance extrêmement questionnée. Donc ça prouve bien que les choses ont bougé. Je prends un autre angle de vue spécifiquement sur le numérique. Il se trouve qu'il y a 25 ans, je travaillais à Pékin. À l'époque, la Chine, c'était le degré zéro, c'était le Moyen-Âge du numérique. Okay, à Pékin, tu avais la plupart des gens, ils descendaient dans la rue pour passer un coup de fil dans une petite boutique en bas de chez eux, quoi. Donc c'était vraiment le degré zéro, même sur l'accès telco. Aujourd'hui, c'est la deuxième, peut-être en voie de devenir la première puissance numérique dans le monde sur l'ensemble des axes, c'est-à-dire des réseaux sociaux type TikTok, sur l'informatique quantique, sur tout ça. L'histoire n'a pas de fin. La question, c'est comment est-ce qu'on prend la bataille et comment est-ce qu'on s'engage dedans. Et ça amène, je pense, pas mal à la question de pourquoi est-ce que l'Europe est dans cette situation. Ou plutôt, qu'est-ce qui fait la différence avec les écosystèmes qui fonctionnent, que ce soit en Chine ou dans la Silicon Valley ou en Israël, etc. Je pense que ce qui fait l'énorme différence, c'est le jeu d'équipe. En Europe, dans le numérique notamment, on ne joue pas ensemble. Ça se voit entre pays. Les décisions prises par l'ANSSI en France ne sont pas les mêmes que celles de son homologue en Allemagne. À un moment, les gars, il faut juste se réveiller, il faut travailler ensemble. Mais ça correspond aussi à des questions fondamentales. C'est que la vision de l'Europe, vue de France ou vue d'Europe et ou vue d'Allemagne, n'est pas la même. Donc effectivement, là, on a un problème de vision de société qui se déverse dans le numérique. Mais c'est ça le problème fondamental. Et puis ensuite, cette question de jouer ensemble, on la voit même à l'échelle nationale en France, c'est-à-dire où le jeu ensemble, entre, je pense qu'on est bien placé pour le dire, entre les grands groupes, les startups et l'État, c'est pas tout à fait ça, quoi. Donc, or, le jeu ensemble, c'est ce qui caractérise l'écosystème de la Silicon Valley et qui caractérise de manière différente l'écosystème en Chine. Donc, c'est évidemment en Israël. Soit on arrive à faire ça, soit dans le numérique, mais dans d'autres domaines aussi, on va se péter la gueule. Et là, je rejoins entièrement Alain. On n'a pas le choix. Quand tu regardes les 20 premières capitalisations boursières dans le monde, okay, il y a 2/3 de boîtes du numérique. Et par ailleurs, il y en a une seule européenne, LVMH, qui est 18e. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'enjeu économique posé par le numérique, un, il est primordial, c'est de très loin le premier secteur au monde, économiquement parlant. Est-ce qu'on peut abandonner ça? Non. Deux, il perspire dans l'ensemble des aspects de la société et de l'économie. Donc, est-ce qu'il est envisageable que l'on puisse développer une puissance économique sur autre chose sans avoir un grasp, sans tenir les choses en numérique? Je ne crois pas une seconde. Je pense que si on perd le numérique, on perd tout. Alors, on sera peut-être le Disneyland de demain, mais ça ne va pas être suffisant. Donc, on n'a pas de choix. Et la question, en revanche, c'est comment on trace un chemin, comment on trace une route. Et effectivement, là, je rejoins complètement Valentin. L'axe européen, qui est un axe de dire on va être une puissance régulatrice, qui est effectivement la vision de la Commission et de beaucoup d'administrations en Europe, c'est une vision qui, je pense, comprend pas vraiment ce que c'est et le côté extrêmement physique en fait de l'informatique. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, tu peux réguler ce que tu veux. Si t'es pas celui qui fait, t'as quand même un problème, quoi.
Oui, je vais me faire l'avocat du diable parce que c'est moi qui ai posé la question et je sais pourquoi je l'ai posée. Parce que quelque part, on voudrait dans le numérique être en capacité de faire d'être sur les infrastructures comme on l'a toujours fait, comme on l'a fait dans l'espace, comme on l'a fait dans l'aviation, comme on l'a fait dans l'automobile, comme on l'a fait dans l'agriculture, comme on l'a fait sur des produits de consommation iconiques, comme on l'a fait avec la French Touch dans l'électronique. Bref, on voudrait être au cœur du système. Et en fait, la France est devenue un pays de consommateurs dans le numérique, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne bénéficie pas du numérique. Par exemple, la France bénéficie énormément d'Airbnb. Elle bénéficie de la capacité à avoir mis sur le marché un volume extraordinaire, alors avec des impacts qu'on connaît, hein, mais avoir mis sur le marché un volume extraordinaire de lieux de villégiature. Elle a multiplié les petits pains pour que les touristes internationaux puissent venir, et ils viennent. Donc nous bénéficions du numérique. Les producteurs français bénéficient des financements des plateformes. Voilà, le retour financier exigé aux producteurs nationaux, ils produisent pour Netflix. Notre secteur culturel, quelque part, n'est pas en grande difficulté sur les plateformes. La question qui va se poser pour la France, c'est est-ce qu'on prend le risque de bouger des ressources à 10, 15, 20 ans pour essayer de jouer dans le cœur du système? Où est-ce que l'on surfe sur ce que l'on peut faire, sur des tendances qui nous ont échappé? Et cette question, il y a 15 ans, on pouvait se dire qu'il fallait aller vraiment au cœur du système. Aujourd'hui, a-t-on les ressources, a-t-on les moyens et a-t-on la vision? Et c'est ce que tu disais, Mathieu, et là je suis d'accord avec ça. Pour une fois, on n'a pas de vision. Voilà, je ne sais pas ce que veut la France dans le numérique. Je n'en sais rien. Je ne suis pas sûr que beaucoup de dirigeants le savent. Ce qu'ils veulent, c'est avoir des capitalisations boursières. Est-ce un objectif? Est-ce pas simplement la conséquence d'une bonne stratégie? Ça ne peut pas être le préalable. On veut des gains, des entreprises à succès, des entrepreneurs à succès. Encore une fois, c'est la conséquence d'une adoption. Ça ne peut pas être un préalable. Et donc, on a un peu mis, finalement, c'est comme quelqu'un qui veut se préparer pour un marathon, qui veut le faire en 3 heures et qui s'entraîne 2 fois. Ben, ça va pas y arriver, il va pas y arriver. Et nous, on est un peu dans cette phase-là, et je ne sais pas si on est prêt finalement à l'entraînement. Et j'irai un tout petit peu plus loin. On a un retard culturel, et là, par rapport à l'Asie, c'est fondamental. On a un retard culturel des acheteurs. De la technophilie ambiante. Bon, il ne vous aura pas échappé qu'on n'est pas dans un cas où les gens regardent ce qu'il y a sous le capot. On est plutôt un pays Intel Inside. On m'a dit qu'il y avait Intel dedans, c'est bon. Microsoft Inside. Voilà, on n'a pas forcément la culture d'aller chercher, en tout cas la culture répandue, on va dire, peut-être pas dans le grand public, mais dans une partie importante des acheteurs ou des décideurs du petit au plus grand niveau, on n'a pas forcément cette culture d'aller ouvrir ce qu'il y a dedans. Voilà. Et si on n'ouvre pas ce qu'il y a dedans, eh ben, l'icône avec le N de Netflix, ce sera toujours mieux que l'icône avec son comparable européen, etc., etc. Il y a quand même une dimension de curiosité culturelle, d'envie d'ouvrir la boîte pour aller chercher autre chose. Est-ce qu'on est capable de passer ça, d'avoir ça culturellement? Est-ce qu'on en a envie? C'est une vraie question. Et puis, comparativement à d'autres enjeux, est-ce qu'on saura se mobiliser sur ces sujets-là? Après, la question, faut-il abandonner? Évidemment, elle est excessive, évidemment, mais on n'abandonne jamais rien complètement. Mais à quel niveau doit-on chercher notre compétition, à se placer dans la compétition? Ça peut être ça aussi l'alternative. Peut-être doit-on arrêter de se vivre en compétition avec la Chine et les États-Unis. Peut-être que, quelque part, c'est un peu plus bas, notre compétition intermédiaire.
Mathieu, tu...
Ouais, moi, je pense que c'est des questions intéressantes que tu poses. Tu as eu un glissement dans ta réflexion. La question d'origine, c'est l'Europe. Et là, tu raisonnais sur la France. Et je trouve qu'en fait, ce glissement, il est assez intéressant. Parce que, j'interprète, hein, je ne sais pas si c'est ça ton origine, mais je trouve qu'il traduit quelque chose que je pense assez important, c'est que là, on raisonne finalement sur un aspect technologique. Est-ce que c'est cette technologie ou celle-ci, ce marché ou celui-là? Or, je pense que la question, en fait, compte tenu de l'effet transformatif en fait, du numérique depuis 40 ans, c'est une question essentiellement politique. C'est-à-dire que la question, c'est qu'est-ce qu'on veut pour nous et pour nos enfants comme régime politique demain? Qu'est-ce qu'on veut garder entre les mains en termes de maîtrise de notre avenir? Je le pense très sérieusement comme ça. Notamment parce que, donc ce que je disais tout à l'heure, le numérique irrigue tous les aspects de la société, toutes les industries, mais il irrigue aussi notre manière de penser, notre manière de voir le monde. C'est toute la question de l'influence via les réseaux sociaux, ce que l'armée en France appelle la L2I, hein, la lutte informationnelle, lutte informatique informationnelle. Comment est-ce qu'on influence les gens? Comment est-ce qu'on crée la manière de penser des gens à travers le numérique? Pour le dire autrement, nos cerveaux, notre manière de penser est en train de devenir un immense champ de bataille en vrai. C'est ce qu'a très bien compris, par exemple, il y a quelques années, Cambridge Analytica, qui fait des opérations d'influence sur plus d'une quarantaine d'élections dans le monde, jusqu'à influencer l'élection aux États-Unis, jusqu'à influencer l'élection du Brésil. Enfin, c'est ultra documenté. On a là un enjeu qui est colossal. C'est-à-dire que est-ce qu'on veut garder en main notre avenir et notre manière d'envisager le monde, ou est-ce qu'on veut accepter, parce qu'on a abandonné les outils, l'infrastructure, tout ça, on peut en discuter, à quel est le bon niveau d'action, ça je suis d'accord avec toi Valentin, mais est-ce que sous prétexte qu'on a abandonné ça, on est prêt à abandonner en même temps le fait de tenir notre avenir politique et de se soumettre à finalement de l'influence venue complètement de l'extérieur? À mon avis, c'est extrêmement dangereux, en tout cas perso, j'y suis assez opposé, et je pense que là où on a un gros déficit, je rejoins là complètement ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un déficit de création d'imaginaire, notamment parce que les politiques comprennent mal de quoi il s'agit, donc ils ne positionnent pas, donc c'est un espèce de mélange de on ne va pas trop parler des enjeux du numérique, de l'IA, de tout ça, parce que ces braves gens, ils ne comprennent peut-être pas trop, donc ça c'est l'aspect parler au public, hein. On ne va pas parler à Madame Michu de l'IA parce qu'elle ne va pas comprendre. Mais c'est aussi que les politiques comprenant, je pense, assez mal dans leur majorité dans les enjeux du numérique, bah on ne projette pas l'imaginaire qui est derrière, qui est un vrai imaginaire de mais c'est quoi notre régime politique demain?
Moi, je vais rebondir, hein, parce qu'effectivement, il y a la question démocratique, c'est un des éléments. Moi, je trouve que tu as bien éclairé, mais je reviens sur la dimension sociale et économique. Quand tu as cité les exemples, Valentin, d'Airbnb, c'est un très très bon exemple, par exemple, ou de Google avec les marchands qui bénéficient de ça. De l'autre côté, ces boîtes-là, on sait bien que justement, elles génèrent des profits qui sont monstrueux. Donc, quand on génère des profits, généralement, c'est qu'on crée de la valeur pour soi, d'accord? Voilà. Et qu'on ne le repartage pas, voilà. Et on va dire que depuis, dans la grande parenthèse libérale, là, je dis parenthèse parce qu'à un moment donné, elle va se fermer, il y a un moment où effectivement, les arbres montent au ciel, il n'y a pas de limite, quasiment. Et on a plutôt justement, au contraire, fait en sorte que le partage de la valeur soit encore plus, j'ai envie de dire, déséquilibré. Et ce qui se passe, moi, je montrais l'autre jour à une autre conférence où j'ai parlé de ce sujet-là. J'ai pris le PIB, justement, pour le coup, alors français, à nouveau, on va revenir, on ne va pas être européen 2 secondes, par rapport aux États-Unis, quand on remet, tu sais, le fait de dire, OK, bah oui, eux, ils payent le truc médical d'un côté. Donc, en fait, c'est vraiment l'équivalent du pouvoir d'achat, ce qu'ils appellent réel. Tu vois, quand on fait plus moins sur le fait qu'il y a des services publics, en face, de l'autre côté, c'est privatisé, sans juger que c'est de meilleure qualité ou pas, et on fait juste des plus moins, etc. Ce qu'on obtient, c'est qu'on décroche depuis effectivement les fameuses années 2000 des autoroutes de l'information. L'explication qui est donnée, elle est liée à ça, c'est-à-dire que tu as tout simplement, et on est à peu près, on a perdu 15 points de PIB, ce qui est énorme, énorme, il hein, faut voir ce que ça veut dire, hein, par tête de pipe, uniquement parce que justement, à un moment donné, la valeur, elle est captée en amont par justement ces plateformes. Bon. Donc le fait de dire, finalement, on va rester là-dessus, c'est quelque part assumer que ça va continuer. Une pente d'ailleurs qui est assez en pente douce. Hein, voilà. Et c'est ça qu'on sent aussi, hein, l'histoire du grenouille dans l'eau chaude. On sent que ça baisse. Et simplement, moi, je pense qu'à un moment donné, ce qui se passe, c'est que ça décroche. Parce qu'un jour, tu n'as plus les moyens de te payer juste le fait d'être sur. Tu es comme ça en dessus, tu fais des petits trucs. Bah non, tu te viens, tu te paupérises jusqu'à devenir sous-développé. Et ta civilisation, elle s'écroule. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu as quelqu'un qui dit. Par exemple, comme là, j'entends dans ce podcast, moi, je suis ministre de l'Éducation. Oh, mais j'ai écouté Monsieur Valentin Prusky, mais il a tellement raison. Il faut absolument que maintenant, on regarde ce qu'il y a sous le capot. Donc, on va éduquer la jeunesse pour ça. C'est-à-dire que, tu vois, je réagis à ton point en disant, on va mettre une action. Ah, mais mon Dieu, je suis en déficit, j'ai pas assez d'argent, j'ai plus de professeurs, je ne peux pas les former. Bah, tu sais quoi, on va continuer comme ça. Et donc, ça s'écroule parce que tu n'as pas les moyens d'investir. Les exemples qu'on a donnés tout à l'heure, le pétrole, les telcos, l'aéronautique, la bagnole, à chaque fois, on avait des capacités d'investissement pour justement mettre en place sur des temps longs, par exemple le nucléaire, ça nous a coûté un bras pour le lancer. Bon. Donc, moi, ce que je dis, c'est que abandonner le numérique aujourd'hui, ou en tout cas considérer qu'on va être un joueur on top, bah, c'est clair que c'est du coup, c'est d'être sûr que le coup d'après, on sera vassalisé, paupérisé, voire tiers-mondisé, parce que les États-Unis, de toute façon, n'arrêteront pas de capter la valeur jusqu'à ce que le monde entier soit exsangue. C'est-à-dire que là, on est dans un modèle où il n'y a personne qui les arrête. Si demain, Google fait 600% de profit, on continuera à trouver ça formidable. Si Apple mesure aujourd'hui, il mesure l'équivalent de plusieurs PIB de pays. S'ils représentaient plus que les PIB du monde, on trouverait ça super. Il n'y a personne aujourd'hui pour les arrêter et les États-Unis eux-mêmes ne s'arrêteront pas. Donc moi, je pense que justement, la question, c'est comment on fait pour mettre un taquet dans ce modèle libéral antisocial et que le numérique, c'est vraiment l'effet plateforme, donc l'effet mondial, où là, il faut qu'on aille, on aille agir.
Valentin, tu veux réagir, oui.
J'entends tout ça, j'entends, je vois devant moi des jeunes très ambitieux, très actifs pour remonter le pays. J'en suis fort aise. Mais je constate un point extrêmement important, c'est que, dès que les entreprises peuvent faire la culbute avec des investisseurs anglo-saxons, elles le font. Voilà, elles le font. Il n'y a aucune retenue dans la prise de gain. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire simplement que le gain différé, même les entrepreneurs français n'y croient pas. Ils vendent en partie et très vite au fonds anglo-saxon. Et on verra ce qu'il adviendra de Mistral AI, notre alternative européenne à OpenIA. On constate quand même dès aujourd'hui qu'on fait de la chair à canon pour les VC américains avec un petit tampon soutenu par l'État. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et donc, c'est-à-dire que nos élites, quelque part, elles sont contentes que Apple monte jusqu'au ciel. Et celles qui sont le plus capables de construire des choses ont plutôt envie de jouer avec que de jouer autrement. Et ça, c'est un point qui est quand même très important. Le deuxième, c'est que je constate aussi que on est sur un pays qui a sacralisé la rente, qui a sacralisé le rendement des actifs placés, l'assurance vie, l'immobilier, la résidence secondaire, la slow life avec 6% de rendement sur mes actifs. Et c'est ça qui domine l'imaginaire collectif. Je veux une vie tranquille, locale, mais avec 6% de rendement sur mes actifs. Ah oui, mais là, ce que vous me proposez, c'est génial, mais ça veut dire que ce n'est pas compatible avec ça. Et je vois bien que tout le monde aimerait avoir les deux, à la fois l'immobilier et le numérique, mais ce n'est pas compatible. Il va falloir abandonner quelque chose pour remettre le modèle en déséquilibre, pour financer une expansion ailleurs par quelque chose. Et ce que je ne vois pas aujourd'hui, c'est que sommes-nous prêts à remettre en déséquilibre, à remettre en jeu. Et je vois aujourd'hui que c'est le statu quo qui prédomine. Voilà. Je m'en réjouis pas, mais je dis simplement, si on constate ça, peut-être qu'on peut arrêter de se raconter des histoires et peut-être que finalement, les startups, c'est un sport de transmission d'héritage bien organisé et c'est à peu près tout.
Alors, en fait, sur toute la première partie, finalement, je pense qu'on dit un peu la même chose. C'est-à-dire que le constat, c'est qu'effectivement, on est au bout d'une certaine logique politique qui a abouti à une logique de rentier, ça c'est certain. Et la question que pose le numérique, c'est est-ce que, quand à part son effet transformatif, est-ce qu'on reste dans cette logique-là? Ou est-ce qu'on a un soubresaut? Est-ce qu'on construit une autre logique politique et une autre forme de société? Ça, c'est une question entière. Là, je suis complètement d'accord avec toi. Et il est, à mon avis, assez clair qu'aujourd'hui, en Europe, on l'a mal. En tout cas, cette question, elle n'est pas très tranchée. Elle est tiraillée de plein de côtés. Mais je pense aussi parce que la question n'est pas très bien posée. Encore une fois, politiquement, elle n'est pas tellement mise dans le débat public, que ce soit les questions d'enjeux de reconnaissance faciale face à l'IA, que ce soit les questions, alors là encore moins abordées, mais cruciales par rapport à tout ce qu'on dit, de tout ce qu'il y a autour de l'informatique quantique. Je veux dire, dans quelques années, la totalité des algorithmes de chiffrement qui gèrent tous nos paiements sur Internet, toutes les communications chiffrées, etc., seront tous cassés. On le sait, c'est en train d'arriver. Les leaders, c'est pas mal les Chinois, un peu les Américains. Il y a une ou deux boîtes françaises, mais dont certaines reçoivent des financements saoudiens. Donc, effectivement, ça pose des questions que tu mentionnais. Ce jour-là, on est tous à poil. Sauf ceux qui auront les ordinateurs quantiques, qui maîtriseront, en fait, les nouvelles capacités de chiffrement. Est-ce qu'on a le choix de pas aller vers là? Je pense qu'on n'a pas le choix. Est-ce qu'on le fait bien aujourd'hui? Ça, je suis totalement d'accord avec toi qu'on ne le fait pas bien. Mais c'est deux débats finalement un peu différents.
Je suis d'accord et je voulais revenir sur un point que tu avais dit avant, qui est ça, la même réponse. Là où je pense où l'Europe se débrouille plutôt bien, alors ce n'est pas forcément dans notre champ, ça ne nous est pas forcément toujours favorable, mais quand tu disais est-ce que l'Europe veut défendre son modèle démocratique, c'est-à-dire est capable de défendre ses valeurs et ça passe par le numérique, je pense que pour le coup, sur ces aspects-là, l'Europe légifère. L'Europe met à fond sa puissance normative. C'est peut-être l'endroit finalement où elle exerce le plus sa puissance. Le problème, c'est qu'elle exerce sa puissance pour écrire les conditions générales d'utilisation du numérique. Pas trop en défaveur du locataire. S'il vous plaît, monsieur le propriétaire, laissez un peu de valeur au locataire. C'est ça que dit l'Europe tous les jours. Elle écrit les CGU du numérique, mais veut-elle être propriétaire? Voilà. Alors, sur les valeurs et les droits du locataire, j'ai rien à dire. On est bien lotis.
J'aime beaucoup ton analogie. Je pense que c'est exactement ça que j'entends dans les textes européens. Ouais. Tu viens bien de dire. Moi, je finirai juste en une conclusion sur lequel, parce que cette semaine, moi, j'étais justement au club Bootstrap. Bon, Club Bootstrap, ça a été monté il y a 2 ans. On était au début, c'est un dîner, une cooptation. Moi, j'étais dans le premier cercle. On était une dizaine de zouzous entrepreneurs. On disait, non, on n'a pas envie justement d'être dans le modèle que tu viens de dire, Valentin. C'est-à-dire de lever des fonds et puis d'être vendu très vite à des Américains. 2 ans après, toi, là, il y avait plus de 300 personnes, là, 300 entrepreneurs okay, qui étaient là au théâtre pour donner des awards. Tout ça, c'était joli, tout beau. Et ce qui est marrant, c'est que ce que tu dis est justement est partiellement vrai, partiellement faux. C'est-à-dire que tu as en même temps de certains qui, entre-temps, ont cédé aux sirènes et ont effectivement fait même des exits, des secondaires, etc. Avec des boîtes. Mais de l'autre, certains qui résistent, voire même qui réussissent mieux d'ailleurs en termes, et qui, par exemple, quand on regarde les valos actuels, se disent « tu sais quoi, aujourd'hui, j'ai finalement mieux réussi en restant bootstrap que toi qui as fait ces levées avec ces valos stratosphériques qui aujourd'hui n'existent plus ». Et je peux te dire que tous ceux qui sont passés sur la scène l'ont dit d'une manière ou d'une autre, il y a eu des... par rapport à ça. Et tout d'un coup, tu as 300 entrepreneurs. France Digital, où là, ils sont plusieurs milliers, c'est que du modèle licorne. Donc, ça veut faire de l'exit de l'IPO et ce que tu racontes, tu as entièrement raison. Et donc, ce que je peux te dire, c'est qu'en 2 ans, tu as 1000 contre 300. Et dans les 300, il y en a certains qui ont levé. Donc, effectivement, mais de l'autre côté, dans les 1000, il y en a qui n'ont jamais réussi à lever non plus. Donc, si tu veux, j'équilibre. Ça s'inverse un peu, tu vois. C'est-à-dire que, oui, les forces de l'argent, mais à un moment donné, il y a aussi d'autres choses qui se mettent en place. Et moi, c'est aussi pour ça que je trouve ça très réjouissant qu'on n'est pas dans un modèle unique et que les bootstraps qui étaient avant, justement, le fait de ne pas préférer le modèle américain, sorti, etc., il commence à il a des gens comme nous qui se battent pour dire c'est ce qu'on préfère. Quand même. Et ça, c'est aussi une nouvelle colonne vertébrale qui est en train de se mettre en place en Europe. Voilà. Désolé. Alors, je relance un débat parce que là, on est... En oui. termes de timing, Benoît va nous dire on avait dit 30 minutes sur l'Europe et on relance. Ah, Benoît, c'est ça que tu vas dire.
Non, mais c'est intéressant. Si, alors, oui, effectivement, le temps défile. Si Mathieu et Valentin, vous voulez peut-être apporter votre propre conclusion sur le sujet, parce que vous vouliez tous les deux rebondir sur ce que disait Alain. Donc, Mathieu.
Ouais, alors, moi, j'ai pas vraiment une conclusion, c'est vraiment un rebond sur ce que dit Alain. Il se trouve que ma boîte précédente, on a été financé par des VC, on a fait un exit. En l'occurrence, on a fait un exit vers une boîte japonaise, une grosse boîte japonaise, il y a 10 ans. Quand le mec du Comex de Fujitsu est venu nous voir en France pour racheter la boîte, il a dit, mais moi, en fait, après une journée de discussion, il a dit, en fait, c'est la première fois que je viens en France, et c'est marrant parce qu'on a regardé des solutions tech un peu équivalentes à la vôtre partout dans le monde. Et moi, j'étais très surpris de trouver un truc en France, parce que pour moi, la France, c'était plutôt le tourisme et le fromage, quoi. Mais je veux dire, je pense qu'il ne faut pas opposer forcément bootstrap et modèle financé, sorti, etc. La question qu'on a tous ensemble, c'est la question du rayonnement de notre pays, du rayonnement du modèle, etc. Et il y a plusieurs façons d'y participer. Moi, je pense que ce qui est en revanche là où tu as totalement raison, Alain, où je te rejoins, c'est qu'il n'y a pas un modèle unique. Ce n'est pas en agitant le côté licorne qu'on fait des choses. Le sujet, ce n'est pas licorne, pas licorne. Le sujet, c'est est-ce qu'on arrive à construire des choses qui sont de la tech intéressante ? Est-ce qu'on développe le pays ? Est-ce qu'on participe à son rayonnement ? Est-ce qu'on arrive à construire tous ensemble, start-up, grands groupes, États, des boîtes structurelles dans le domaine du numérique ? Ou est-ce qu'on se contente de faire des copycats de Deliveroo à droite à gauche, quoi. Ça me paraît une question plus fondamentale que le modèle économique. Il y en a plusieurs et c'est pas grave.
Ça rejoint ce que tu disais sur la vision.
Avec Mathieu là-dessus. Et puis, moi, je suis agnostique sur les questions de financement, voire même, je trouve des vertus à une certaine forme de financiarisation de secteur. D'accord, je suis pas vraiment on va dire en faveur de conglomérats Orange qui financeraient eux-mêmes tout et dans lequel on se dirait ces conglomérats vont tout faire. Je pense qu'il y a des vertus à avoir une finance qui accélère, etc. J'ai absolument pas de doute là-dessus. Par contre, ce que je constate, c'est qu'en France, on a pris le modèle financiarisé rente. On va chercher la sortie, on va chercher le gain, on va chercher le rendement de l'actif. Les deep tech, j'en entends beaucoup parler, j'en vois moins arriver. Voilà.
Euh, Merci, messieurs. On pourrait passer les 2 prochaines heures à parler de l'Europe, des textes de loi, de ce que vous, voilà, vous espérez ou attendez justement par rapport à ce sujet-là. Ce sera peut-être l'occasion de faire une deuxième partie, hein, vu qu'on voit que le sujet il est à la fois économique, social, politique. Donc forcément, je suis tenté de proposer à Arte un nouveau format d'émission avec vous trois en tant qu'animateur. Mais pour le coup, comme on est dans le cadre d'un podcast, on va passer au sujet suivant qui est pas moins intéressant pour le coup. Qui avait été mis en avant par Mathieu. Hein. Je rappelle qu'on demande encore une fois à nos invités les sujets d'actualité qui les intéressent. Et Mathieu, donc tu as présenté tu as mis en avant plutôt le sujet innovation versus progrès, le numérique, avec la question le numérique est-il toujours finalement une source de progrès. On sait que le numérique, c'est travailler sur l'innovation, sur les nouvelles technologies, sur les nouveaux outils, outils qui transforment nos habitudes, qui transforment nos usages. On en a un parfait exemple dernièrement avec l'intelligence artificielle hein, qui suscite excitation, inquiétude, doute sur l'avenir auprès des professionnels et aussi auprès des particuliers. Hein, surtout, comme tu disais, Madame Michu qui ne comprend pas forcément encore l'intérêt de l'intelligence artificielle. Je suis tenté de proposer le sujet en te posant la question, finalement, justement, est-ce que innovation, enfin, en tout cas, numérique, est-ce que le numérique est toujours source d'innovation et surtout toujours source de progrès? Peut-être te proposer plutôt, quelle est ta vision sur tout ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle? Bon, là aussi, on pourrait partir sur un podcast de 3 heures, mais vu que ça, visiblement, c'est vraiment le tournant du numérique de ces derniers mois et de ces dernières années, c'est l'arrivée de l'IA, en fait, au cœur du débat public.
Oui. Mon point de départ quand j'avais proposé ce sujet, c'était une observation de tous les débats qui actuellement qui montent assez vite autour du lien IA générative et respect des copyrights. Donc en fait, respect des droits des créateurs de contenu. En gros, la question elle se pose comment? Il y a des modèles d'IA générative qui ont besoin d'être entraînés pour s'entraîner et pour pouvoir générer du coup leur contenu. Ils parcourent des volumes de contenu, donc de textes, d'images, voire de musique, etc., absolument massifs, typiquement sur Internet, mais ils peuvent acquérir autrement. Donc ils parcourent ces contenus. Ces contenus servent à entraîner des algorithmes qui ensuite leur donnent du coup les capacités pour générer des contenus nouveaux, ou en tout cas inspirés de ce qu'ils ont capté. Donc en gros, tu as des algorithmes qui vont récupérer de la création faite par des créateurs de contenus, des écrivains, des peintres, etc., et ensuite l'exploitent pour générer autre chose, et du coup générer leur business model. La question c'est, est-ce qu'il faut rémunérer ces créateurs de contenus? C'est exactement la même question que quand un moteur de recherche ou un réseau social, Google ou Facebook, affiche dans ses résultats des contenus venus de la presse, par exemple. Est-ce qu'il faut rémunérer ou pas la presse dont Google ou Facebook va utiliser une partie d'un article pour créer de l'engagement sur son site? Il y a un grand mouvement autour de ça. On a vu à plusieurs façons. Il y a eu récemment, il y a quelques jours, 2 semaines, en fait, une conférence, Yann LeCun, qui est le chief IA de Meta, qui a expliqué que il était absolument essentiel que les artistes et les créateurs de contenu abandonnent leurs droits d'auteur. Pour permettre aux algorithmes d'IA de s'entraîner, que sinon le monde allait s'écrouler. Il y avait eu aussi un article un peu dans ce sens, il y a un peu plus d'un mois, d'un des plus gros fonds d'investissement de la Silicon Valley, Andreessen Horowitz, qui ont écrit à peu près la même chose, où ils ont expliqué que, grosso modo, il était indispensable que les lois de respect du copyright et de paiement des contenus ne s'appliquent pas aux algorithmes d'IA, parce que sinon, ça allait faire s'écrouler la valorisation des startups d'IA et que, in fine, cela viendrait menacer la sécurité nationale des États-Unis. En fait, le vrai sujet, il n'est pas tout à fait là, quoi. Il y a plusieurs sujets que je trouve intéressants là-dedans. Le premier, c'est que c'est une vieille histoire, quoi. Il y a un siècle ou un siècle et demi, tous les industriels expliquaient que si on payait correctement les ouvriers, si on arrêtait de faire travailler des enfants ou si on donnait des congés payés, le monde entier allait s'écrouler et que l'économie marcherait plus. Le constat, c'est que c'est pas tout à fait vrai. C'est pas exactement ça qui s'est passé depuis un siècle et demi. Donc on peut payer les gens qui contribuent à la création de richesses sans faire s'écrouler l'économie. Ce qui était vrai pour les ouvriers et les enfants dans les ateliers il y a un siècle, je pense, est tout à fait vrai pour les créateurs de contenu qui alimentent les IA aujourd'hui. Deuxième chose, c'est que, et ça on le voit très bien dans le papier d'Andreessen Horowitz, c'est un point un peu différent qui est assez intéressant. Andreessen Horowitz dit, en fait, si les startups d'IA dans lesquelles on a investi devaient payer les fournisseurs de contenu, les créateurs de contenu, ça leur coûterait tellement cher qu'on ne pourrait plus justifier la valorisation qu'on a utilisée pour investir dans ces startups. C'est un enjeu hyper différent. En fait, tu as un fonds d'investissement qui dit on a payé tellement cher et de manière tellement absurde l'entrée au capital de boîte dans lequel il n'y a peut-être pas encore le business model, ou un business model pas clair ou pas établi, que du coup, ben, faudrait pas qu'elles aient à payer ce qu'elles sont censées payer compte tenu des lois qui sont en vigueur dans tous les pays. C'est quand même une question vachement différente. Était évoqué tout à l'heure Mistral AI Valentin. On voit là typiquement, hein, il y a quelques jours, Mistral annonce une levée de 450 millions d'euros à laquelle participe justement Andreessen Horowitz sur une valo de 2 milliards. Très bien pour Mistral. C'est une boîte qui existe depuis 6 mois. Est-ce que c'est totalement raisonnable ou pas? Je ne vais pas me prononcer là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas être un fonds d'investissement et dire en même temps. On a investi sur des valos tels que les boîtes dans lesquelles on a investi doivent ne pas payer ce qu'elles doivent aux autres pour justifier notre valo et continuer à faire ce genre d'investissement. À un moment donné, il faut être raisonnable. Soit tu réalises que les montants auxquels tu investis sont déraisonnables, bah tu arrêtes d'investir à ces montants-là. Soit tu penses que c'est raisonnable et tu payes ce que tu dois payer. Mais là, on est dans un truc complètement différent où les mecs payent un truc déraisonnable et du coup essayent d'influer la loi et finalement de paupériser toute une population, les gens qui créent des contenus, qui permettent à leurs algorithmes de fonctionner. Donc c'est en fait on est dans une espèce de rapacité qui est complètement dingue. Et je vais finir là-dessus. Cette rapacité, on la trouve à un autre niveau. C'est-à-dire que il y a 2 mois, il y a une enquête qui est sortie qui montrait que pour entraîner ces algorithmes, OpenAI faisait appel à des travailleurs payés sous le salaire minimum de l'OIT au Kenya. Donc on reçoit 10 milliards d'euros d'investissement, mais on paye des gens sous le seuil de pauvreté. C'est quand même, pour travailler pour soi, c'est quand même, enfin, ça pose pas mal de questions éthiques. Et il y a quelques jours, il y a une autre enquête qui est sortie sur l'utilisation par un certain nombre de firmes d'IA, de sociétés de labellisation de données un peu partout dans le monde, qui emploient des mômes de moins de 15 ans. Pareil, on reçoit de l'argent et des valorisations stratosphériques, mais on emploie des mômes pour travailler pour soi. Ça pose deux, trois questions éthiques. Et je pense qu'en fait, le vrai sujet, ce n'est pas un sujet de est-ce qu'on rémunère ou pas les créateurs de contenu. Ça, c'est un peu comment dire, la fumée que fait s'agiter Meta à travers Yann LeCun ou Andreessen Horowitz ou OpenAI. Le vrai sujet, c'est quoi la position éthique de ces gens-là et c'est quoi la contribution au progrès, pas leur innovation et leur fric, mais le progrès pour tout le monde. Voilà.
Oui,
Et je serais très heureux
c'est
d'entendre vos points de
intéressant.
vue.
C'est intéressant parce que du coup, tu as soulevé un peu toutes les questions qui tournent autour de l'IA, à savoir au niveau économique, social, éthique également. Du coup, c'est bien, tu as ouvert plusieurs portes en même temps. Alain, je te laisse choisir laquelle tu veux franchir pour le coup.
Mais au fur et à mesure que Mathieu a commencé à déployer ça, effectivement, moi j'avais en boucle la question qui revenait avec deux mots qui étaient progrès social. progrès social. Et qu'effectivement, la question au départ posée en termes progrès, innovation, c'est plutôt, oui, alors est-ce que les innovations, elles servent au progrès ou elles sont juste là, c'est des trucs inutiles? Enfin, tu vois, il y a aussi cette perspective-là. Mais au fait, ça, c'est des questions de gens riches et tranquilles. La vraie question de fond, c'est la question entre à quoi sert l'innovation si ce n'est pas pour le progrès social de tous. Et là, on voit comment Mathieu nous raconte comment ces boîtes-là, déjà, en fait, sont déjà surfinancées, sont dans des processus détestables d'utilisation de main-d'œuvre payée au vil prix, comme on dit dans ces cas-là. Mais il y a aussi derrière le fait que, par exemple, si on regarde ce qu'a fuité de la part de Microsoft sur son usage de son IA copilote, c'est qu'ils disent, en gros, aujourd'hui, on arrive, bon an, mal an, à sortir entre 10 et 20 euros par utilisateur par mois. Avec de l'IA, on sait qu'on va pouvoir remplacer finalement l'assistant, celui qui est dans l'équipe qui aide, enfin tous ces gens qui sont autour, avec une valorisation qui peut faire, vu que c'est des gens qui peuvent coûter 400-500 dollars, parce qu'en fait ils sont cartants pour la personne, c'est des calculs qu'ils ont fait au niveau mondial, et ben on peut aller choper entre la moitié de cette valeur, donc 100 à 150 dollars par mois, et c'est ça qu'on va les capter, donc c'est toute cette valeur là. Et donc quelque part, ce que je trouve terrible dans cette histoire, c'est que si on entend la totalité, c'est on a donc des boîtes survalorisées pour faire des exits survalorisés qui vont piquer du contenu à des gens sans les payer. Ça commence par là. Tu dis que c'est anecdotique, moi je ne pense pas. Ça prouve comment ils fonctionnent. Pour ensuite faire travailler...
J'ai pas dit anecdotique,
c'est moi qui...
L'écran de fumée, quoi.
L'écran de fumée, voilà. Pour aller ensuite faire travailler des gens sur leur modèle qu'ils ne payent pas, parce que c'est effectivement soit des gens du tiers-monde, etc. Ce que Google fait déjà pour ses searches. Et ensuite, aller vendre un produit qui va substituer des gens qui sont effectivement au bout de la chaîne alimentaire, qui ne sont pas payés. Mais vraiment, on est où, quoi? Et en plus, généralement, c'est les mêmes libertariens qui ne veulent pas d'impôts, parce qu'effectivement, eux, avec les milliards qu'ils font, ils peuvent se payer eux-mêmes un hôpital personnel et se payer une route qu'ils fabriquent eux-mêmes et des nounous, toujours pas payés, pour éduquer leurs enfants eux-mêmes. Donc oui, dans un modèle comme ça, ils peuvent s'extraire de l'État et des services publics et de tout ce que propose notre société et de tout ce que le progrès et le progrès social a été fait. Mais est-ce que c'est la société qu'on veut? On revient avec l'histoire de l'Europe. Mais c'est une vision détestable du monde. En fait, on n'aura que 10 personnes qui seront dans un bunker, avec des millions qui seront en train de crever la faim à l'extérieur, mais qui auront été nourris à l'IA. Enfin, on est... Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une dystopie qui est si lointaine quand on voit la paupérisation, et si on reprend les éléments que je vous ai dit tout à l'heure. Quand je vous ai dit le cliff et qu'on pouvait tomber comme ça, c'est qu'effectivement, là, on a un processus de non-progrès social, parce que derrière ces boîtes-là, il y a des gens qui ne... veulent pas du progrès social. Ce qu'ils veulent, c'est la captation, la prédation pour leurs intérêts propres. Donc, c'est terrible parce qu'en plus, l'IA est une technologie, moi, je trouve, qui pourrait être large bande, qui a plein d'usages intéressants, mais il faudrait qu'elle soit, d'une certaine manière, redistribuée. Et on reprend notre débat tout à l'heure. S'il n'y a que quelques boîtes qui maîtrisent ces technologies et ce framework, la paupérisation, elle est en marche. Et là, on le voit de manière radicale. Donc, je mets progrès, innovation, mais surtout progrès social. Et je pense que c'est le sujet qui doit revenir au cœur de ces éléments. Mais j'ai déjà eu l'occasion d'en discuter avec Valentin, d'ailleurs longtemps, cette question de remettre le social au cœur de nos sujets.
Ouais, décidément, vous nous gâtez. Hein. Là, on peut pas toucher plus au cœur du sujet. Et l'anarchiste qui sommeille en moi bouillonne en écoutant Mathieu. si on reprend le sujet, on va rajouter quelques éléments, parce que je crois que vous avez dit déjà beaucoup de choses. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on nous promet toujours des voitures volantes, et ça se finit toujours dans des RER blindés. Donc la bonne nouvelle...
Oh, la punchline, excellent.
La bonne nouvelle, c'est que on n'est pas à l'abri de réinvention de roue et de beaucoup de marketing. Même si, je ne dis pas qu'on n'est pas sur le chemin de la GI, je ne dis pas que l'intelligence artificielle n'est pas une vraie technologie. Je voudrais simplement reprendre par exemple l'exemple d'Uber, technologie. On devait aller chez nous à 0 centime sans chauffeur, partir, aller au travail, une fluidité incroyable. Bon, puis finalement, y avait les droits sociaux des travailleurs, ils ont créé pas mal de bouchons, donc on a recréé des stations d'approche, donc il y a un niveau minimal des courses, des stations d'approche. In fine, après 5 ans de régulation, on a réinventé les taxis. Je dis juste ça, c'est qu'on est donc au final sur des modèles qui brandissent la science, la technologie, mais se fondent d'abord sur une attaque brutale sur l'autonomie de régulation des sociétés. Et donc viennent trancher rapidement pour aller créer, on va dire, de la valeur en détruisant des systèmes de régulation, en allant chercher un peu une survaleur quelque part, là où on pensait qu'elle était mal employée. Et c'est ça aussi l'idéologie derrière, hein, c'est que finalement, il y avait de l'argent qui restait un peu trop inerte chez des choses inutiles, donc on va aller casser cette régulation pour prendre cet argent, parce que nous, on sait mieux le redistribuer. J'y reviendrai, il y a un sujet un peu... Alors évidemment, ChatGPT, c'est ce que tu décris Alain, c'est stagiaire GPT. Le modèle, c'est quoi ? C'est on enlève une personne dans l'équipe pour réécrire, reformuler, traduire, etc. Donc on fait un gain de productivité. Et il ne faut pas se tromper, si Microsoft est le premier à avoir parié beaucoup dessus, c'est que ce n'est évidemment pas une aide à la décision à situation complexe, c'est évidemment pas une fluidification de la vie. C'est pareil, c'est comme votre carte grise, on vous a promis que vous allez l'avoir en 4 clics, et depuis que tout est dématérialisé, ça prend 9 mois. Voilà, 9 mois. Alors que faire la queue à la préfecture, en fait, était presque plus facile. Donc, on est allé chercher simplement, c'est pas pour le bien collectif, on va chercher de la survaleur. Ça va être dans le B2B, dans la productivité d'entreprise. On va rajouter un bon abonnement à $30 par site et on va aller chercher du profit. Paradoxalement, c'est ce qui nous protège, cette voracité, c'est aussi ce qui nous protège d'une avancée très rapide de l'IA. Et c'est ça que je trouve intéressant, et notamment la dernière controverse avec OpenAI, c'est que leur voracité se met un peu sur le chemin de la découverte scientifique intéressante. Et quelque part, si j'étais un peu provocateur, la bombe nucléaire n'a pas été inventée par un capitaliste, elle a été inventée par un scientifique. Et donc la voracité sur le chemin va peut-être nous faire arrêter à une station assez médiocre de l'IA. C'est-à-dire qu'on va aller prendre l'IA pour faire des trucs un peu à la con, un peu naze, et on va peut-être pas l'amener à son chemin excessif. En tout cas, c'est peut-être une vision aussi qu'on peut se dire que la voracité nous protège de cette volonté d'aller chercher vraiment le truc supérieur. Mais derrière tout ça, il y a un point très important, c'est qu'on va vers une automatisation très aride de nos sociétés. On va vraiment détruire toutes les inefficacités et donc les personnes que l'on considère inefficaces. On va vraiment séparer l'humanité en deux. Voilà. Ceux qui ont compris, qui vont rendre efficaces les autres. Les autres par des systèmes. D'accord ? Et l'IA, c'est un joli mot aussi pour dire on va tout automatiser. D'accord ? C'est pas que de l'intelligence, c'est aussi beaucoup d'automatisation. Il y a aussi beaucoup de process que l'on va fluidifier. Il n'y a pas beaucoup d'intelligence dans ces process au départ. Hein. Mettre un PDF en Word, il n'y a que Microsoft qui trouve ça intelligent. Pour le commun des mortels, c'est juste un enfer. Donc, on va d'abord attaquer ces sujets-là. Et il y a des croyances derrière ce séparatisme. Il y a la croyance de la alt-right américaine, Peter Thiel, etc. Et puis, il y a des gens qui ont prétendu être de gauche, c'est assez intéressant, du fameux effective altruism, hein, qui nous a valu déjà FTC avec Sam
Altman,
et qui nous vaut aujourd'hui, dans l'environnement de l'IA, il y a beaucoup de effective altruism. Nous allons créer la valeur et nous allons décider où la redistribuer. Quelque chose qu'Elon Musk, par exemple, décide aussi. Hein, il considère qu'il prend le sujet de l'innovation à son compte et qu'il va décider. Free speech, je décide. Russie-Ukraine, je décide. Comment on fait la conquête spatiale, je décide. Etc, etc, etc. Donc oui, il y a un sujet d'une violence de séparatisme qui s'exerce. il faut maîtriser ces technologies et elles ont un chemin, c'est évident, mais c'est ce qu'on disait avant sur doit-on abandonner? On ne peut pas complètement abandonner. Mais là, attention, on touche quand même un tout petit peu plus que juste la régulation. On touche au fait que ils ont, la technologie américaine, la Silicon Valley et ses financeurs ont aujourd'hui une puissance comparable à un État et à un État relativement puissant. Il y a une autonomisation de ce chemin de progrès qui s'assume d'ailleurs. Hein, le manifeste techno-optimiste de Mark Anderson est assez intéressant, c'est-à-dire que désormais, ils jouent à visage découvert. Voilà, ils ont un but politique, un but social, ils l'assument et ils vont jusqu'au bout de ce sujet. Donc maintenant, est-ce que c'est les États, est-ce que c'est l'Europe, est-ce que c'est les sociétés, est-ce que c'est des groupes d'individus qui arrivent à construire des contre-modèles? Je n'en sais rien, mais là, on est clairement parti pour quelque chose qui va brutaliser nos sociétés très fortement dans les 10 prochaines années. C'est à peu près évident.
J'avais une question pour toi, Valentin, avant de, que Mathieu réponde. Justement, quand tu, est-ce que tu penses, par rapport à ce que tu racontes sur le fait qu'ils sont passés à un stade politique et effectivement l'écrivant, etc., est-ce que tu penses que les sociétés ont déjà entendu ce message? Est-ce qu'elles l'accueillent favorablement ou est-ce qu'on est déjà dans la désillusion? C'est-à-dire qu'au moment où ils sortent du bois, en fait, parce que ce qu'on voit par exemple en Europe, hein, je suis désolé, les GAFAM, ou même pour les recrutements, ils ont plus de mal qu'avant, ils sont obligés de payer plus cher parce qu'ils sont devenus un peu comme les boîtes comme chez Total chez nous, c'est-à-dire que c'est pas des personnes morales désirables. Est-ce que tu penses qu'ils en sont là ou est-ce qu'au contraire, ça c'est juste un épiphénomène?
Pour moi, il y a plus d'unité de récit dans nos sociétés. On est dans une fragmentation du récit qui est très importante et il y a des vécus, des expériences, des récits. Ce qui rend extrêmement compliqué de savoir du coup la force de leur récit. C'est un récit parmi d'autres. La force de la manière dont il est réceptionné et la capacité aussi qu'ont les gens de se projeter dans les différents récits indépendamment de leur vécu, de leur quotidien, etc. Ça rend les choses très compliquées, hein, à la fois pour eux, pour mettre leur récit, pour le combattre et savoir comment il est réceptionné. Les récits ne sont plus du tout réceptionnés de manière unitaire dans la société et par les individus. Par contre, je suis très inquiet sur la nature consumériste de notre société. La guerre de l'attention que décrivait Mathieu, dont TikTok est l'arme avancée, me fait dire qu'aujourd'hui, si on devait, entre guillemets, pour répondre un peu à côté, mais en répondant quand même, je pense que notre seule chance aujourd'hui, ou l'une de nos chances principales, c'est de chérir la singularité des réflexions. On rentre dans un moment où il va être extrêmement important de construire des raisonnements logiques, singuliers, des chemins technologiques, de prise de valeur, de réflexion sur la société, qui sont singuliers. Et de proposer ces récits singuliers pour permettre justement voilà, de préserver des fragments de récits alternatifs et peut-être de reprendre pied. Voilà, c'est ce que je pense. Est-ce qu'ils sont encore désirables? Oui, ils sont très désirables pour une grande partie de la population. Quelle n'a pas été ma surprise quand à la plage, je vois des gens étendre des serviettes de plage avec le petit logo d'Android dessus. Voilà. C'est désirable. Ça reste désirable pour une grande partie de la population.
Ça dépend qui se met sur la serviette. Mathieu, c'est ma blague, c'est juste une blague. Bah, bah, Valentin,
Bravo,
c'est pas
bravo.
aussi profond que ce que tu as dit, c'était juste la petite blague
Je
de
te
fin.
félicite pas. Ouais, non, mais quelques remarques éparses. D'abord, une remarque générale. Dans tout ce qu'on dit, on cite beaucoup les GAFAM et les États-Unis. Je pense qu'il faut évidemment toujours entendre ça comme les États-Unis, mais aussi la Chine, enfin, qui pose en fait un peu les mêmes questions. Et peut-être de manière même encore plus dangereuse ou encore plus en rupture par rapport à notre système philosophique et politique. Mais en tout cas, ce que tout ça illustre, finalement, ça rejoint beaucoup notre point précédent sur l'Europe. C'est-à-dire que les enjeux fondamentaux du numérique aujourd'hui, ce n'est pas du tout des enjeux de technologie. Enfin, ce sont des enjeux technologiques, mais l'enjeu profond sous-jacent, c'est un enjeu politique et de maîtrise de notre avenir politique. Et je trouve intéressant que finalement sur deux discussions, sur des thèmes où on ne s'est même pas vraiment concerté, on arrive en fait, on converge en fait un peu vers le même constat. Et effectivement, Valentin évoquait ça sous un angle on n'avait pas parlé jusqu'à présent, qui est la volonté politique des grands acteurs du numérique et notamment des grands acteurs libertariens, type Thiel, Musk, etc. Je voudrais juste à ce titre-là donner deux chiffres que j'ai lus aujourd'hui dans un article de la MIT Technology Review, donc article US. Entre 2021, l'ensemble des boîtes US ont multiplié par deux leur investissement dans le lobbying auprès de l'Union européenne par rapport à l'année précédente. Juste sur la première moitié de 2021. Donc en 2021, ils avaient dépensé, enfin, premier semestre 2021, ils avaient dépensé 55 millions de dollars en lobbying auprès de la Commission, contre 34 millions sur l'ensemble de l'année 2020. Donc ça prouve leur volonté d'influer sur le parcours législatif de manière assez incroyable. Et dans le même temps, sur les 56 membres du groupe d'experts sur l'intelligence artificielle de la Commission européenne, il y en a 26 qui étaient donc en 2021-2022 directement payés par les GAFAM. Je trouve que c'est assez intéressant à garder en tête et pour ne pas perdre de vue le vrai enjeu politique la vraie proposition politique qui est sur la table, en tout cas d'une partie des grandes boîtes tech, qui est ce qu'évoquait Valentin, c'est-à-dire cette proposition libertarienne qui en gros revient à dire, vous savez quoi? En fait, nous, on va faire mieux que les États, on va en quelque sorte remplacer structurellement au moins une partie du fonctionnement au moins une partie du fonctionnement des États. Et ça rejoint à des enfin là où ça mène. Pour le coup, au moins chez nos créateurs, ça revient créateurs, chez nos créateurs en France, on a la chance d'avoir notamment dans la science-fiction contemporaine des auteurs extrêmement talentueux. Il y a des gens comme Serge Lehmann dans Faust ou d'une certaine façon Damasio dans Les Furtifs qui décrivent ça. Où est-ce que ça mène, quoi? Et je pense qu'il est assez temps de mettre ce débat sur la place publique politique.
Alain, tu veux rebondir? Sinon, j'aurais une question pour vous, messieurs, justement, peut-être pour faire le lien entre le premier et le deuxième sujet. Alain, je te laisse peut-être rebondir sur ce que vient de dire Mathieu, si tu
Non,
veux.
ce que ça me fait réfléchir, c'est que ce pacte faustien, justement, c'est de deux choses l'une. Soit, par exemple, on se dit, on va faire un peu de politique ou d'histoire-fiction. Soit on se dit, effectivement, ces modèles sont tellement des modèles de prédation, ce qui est mon hypothèse. Qu'à un moment donné, ils détruisent les sociétés sur lesquelles ils s'installent. Et donc, ils ne peuvent pas perdurer très longtemps. Et donc, quelque part, si nous, en Europe, on reste justement, même sous domination, même sous influence, mais qu'on ne bascule pas dans ce modèle-là, on l'a dit tout à l'heure, parce qu'on n'a pas les capacités d'avoir ces acteurs-là au niveau européen, bah peut-être c'est une chance pour nous, parce qu'en fait, s'ils déploient trop vite un modèle gafamisé, trumpien, qui détruit totalement la société, c'était un peu le sens du propos tout à l'heure de Valentin, finalement, nous, en ayant resté droit dans nos bottes de notre modèle, peut-être médian, eh ben, en fait, effectivement, on s'en sortira. Mais je pense que la clé, on voit bien, elle n'est pas sur la question finalement du numérique. Elle est que le numérique est aujourd'hui peut-être l'économie qui crée le plus de prédation le plus vite. Mais donc en fait, c'est vraiment la question centrale des modèles libéraux sans limite qui sont des modèles de prédation. Voilà, je pense que le sujet, il est vraiment politique et social avant d'être effectivement économique. Il se trouve que, oui, nous, le numérique, c'est quand même aujourd'hui ce qui permet de récupérer le plus de valeur le plus rapidement possible sur le plus de gens possible. C'est ce qu'on voit sur Google, ce qu'on voit sur Airbnb, c'est ce qu'on va, on peut, on risque de voir sur l'IA. Mais on n'est qu'un accélérateur de ce qui se passait déjà dans l'énergie ou dans d'autres secteurs antérieurs. Voilà, c'est ça qui me laisse en fait, me donne cette perspective.
D'où un tout petit peu d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, ma question précédente. Faut-il sacrifier vos vaches couvées pour pour aller courir sur le tapis de cette course-là ou justement équilibrer nos paris. Et j'ai entendu votre réponse de tout à l'heure qui disait il faut un secteur numérique, c'est très important, c'est là où se crée la valeur. C'est vrai, mais c'est un peu un vortex aussi. Cette course-là est un petit peu un vortex à nos sociétés et ne nous garantit pas forcément ni de gagner la course, ni d'être encore là pour faire autre chose après.
Merci messieurs. Alors j'aurais juste une dernière question à vous tous, hein, répondra qui veut là-dessus, avant de passer justement au sujet surprise d'Alain. Mais ça rejoint finalement, est-ce que ça ne rejoint pas finalement la première partie qui disait, Valentin m'a introduit le sujet en disant, bon, l'Europe, cette machine administrative un peu pataude, voilà, on est très bon pour réguler l'espace numérique et un peu moins pour justement faire briller nos entreprises. Est-ce que ce n'est pas finalement ce que disait un petit peu Alain, un mal pour un bien au vu de la vitesse à laquelle évolue le numérique aujourd'hui, puisque ni les États-Unis, sauf erreur de ma part, ni les États-Unis ni la Chine ne semblent réellement intéressés par justement la partie de régulation des usages et justement des instincts de prédation dont vous avez parlé. Mathieu,
je vais
peut-être
rebondir sur cette question.
Valentin.
Tu as beaucoup d'activités aux États-Unis sur la régulation des usages. Après ça, tu as aussi une activité de lobbying extrêmement intense auprès du Congrès et du Sénat américain. Tu as notamment récemment été mis en lumière le ensemble d'instituts de recherche qui alimentent en jeunes doctorants les sénateurs américains pour travailler sur la régulation de l'IA, sont financés par Google, Amazon, Nvidia, etc. Donc, ils sont très, il y a beaucoup, beaucoup d'activités. Et en Chine, la régulation, c'est. Il n'y a même pas trop de débat. Quand Jack Ma bouge une oreille, Jack Ma disparaît.
Donc... Non, mais la question est intéressante sur un point. C'est ce que je voulais amener sur la première question. C'est que sans clarté du constat, il ne sert absolument à rien d'imaginer peser ou faire quelque chose. Et je pense que, et d'ailleurs, ça doit être peut-être le retour d'expérience des 15 dernières années. C'est quel est le constat? Sur quoi sommes-nous d'accord? Sur là où on doit aller? Sur quel modèle de société? Comment? Quel numérique? Sur quel secteur ensuite veut-on peser? Et ensuite seulement, on est en capacité d'enclencher ou de savoir quelles courses on fait. Alors, évidemment, ce modèle-là, par rapport à l'économie qui court tous les matins, le nez dans le guidon, et où on est tous, nous-mêmes, hein, c'est pas facile. C'est aussi les acteurs qui font ce qu'est la vision. Mais je pense qu'on est arrivé à un point où, en fait, avant de se positionner, il va peut-être falloir, maintenant, qu'on décide ce qu'on veut, avec une clarté aussi de compréhension des mécanismes, des causes et des conséquences, et qu'on ne prenne pas des conséquences pour des causes et inversement. C'est pas l'IA qui crée le revenu d'OpenIA. C'est Microsoft et sa distribution qui bourrinent l'IA dans toutes les entreprises pour prendre $25 par utilisateur pour remplacer des gens. Il y a des causes et des conséquences. Et je pense que tant qu'on n'a pas une clarté là-dessus, on n'est pas en capacité vraiment de jouer correctement. Et on régule un peu à la va-vite, n'importe comment, parfois bien, parfois mal, mais on ne sait même plus ce qu'on fait. Et c'est l'impression que j'ai aujourd'hui de l'Europe et de la France sur le sujet, c'est qu'en fait, on a perdu le fil. Alors, on est partout, tout le temps, mais on a perdu le fil. On ne sait plus vraiment ce qu'on va chercher. Et donc c'est ça, je pense, le récit, il démarre là, de décider de ça.
Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur la vision, du coup. Merci messieurs, on arrive quasiment à 1h15 de podcast, hein. c'est quand même assez généreux. Je vous propose de passer à la toute dernière partie du podcast de notre troisième épisode justement avec le sujet surprise d'Alain. Alain qui a choisi un sujet d'actualité qui va le partager à Mathieu et Valentin afin que vous puissiez rebondir dessus. Messieurs, Alain, je te laisse la main.
Alors le sujet d'actualité surprise, en fait j'ai eu très très peur pendant le podcast que vous avez failli l'éventer. Mais heureusement, les mots que je vais vous donner n'ont pas été prononcés, mais on en a prononcé certains qui étaient périphériques. Donc je t'avoue qu'à un moment donné, Benoît, j'étais vraiment, tu vois... J'étais
en... J'y ai pensé aussi.
Voilà, hein, voilà, cacher, voilà, oui. Voilà, parce que je lui ai dit, en fait, à Benoît, je lui ai dit la surprise. Alors la surprise, en fait, elle est surtout aussi pour poser une interrogation. On a beaucoup parlé justement du rôle des politiques. Savoir s'ils étaient justement pertinents ou pas pertinents, s'ils avaient une vision et quels étaient finalement leur rapport avec tout ça et les propositions qu'ils pouvaient faire. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de regarder un petit peu dans le rétroviseur, histoire de ne pas être trop dans la chaleur de l'actualité, de regarder un peu les comportements, et c'est ça dont je voudrais avoir votre retour, de notre ancien ministre du numérique. De la position qu'a tenue notre ami Cédric O, ministre du numérique de la première mandature, qui a eu toute une histoire avec les licornes voilà, et qui aujourd'hui se retrouve dans cette histoire de Mistral. Hein, on découvre qu'il est, alors au départ qu'il était celui qui allait conseiller, mais enfin un peu plus conseiller parce qu'il a carrément m'a participé à cette fameuse levée de fonds et que là, il y aurait un magnifique petit chèque d'un million qu'il aurait justement engrangé grâce à ce positionnement. Et donc, j'aimerais avoir votre avis sur cette trajectoire un peu politique et puis comment on se retrouve avec le Thierry Breton qui finit par effectivement quand même lui tirer les bretelles en disant « Mais alors, non, Mistral, le fameux moteur d'IA générative open source français, ben non, c'est pas de l'intérêt général. » Ah bon, comment ça? Un million quand même dans les poches de Cédrico, c'est quand même dans l'intérêt général, moi, je trouve. Donc ça rebondit beaucoup avec notre histoire et j'aimerais avoir votre analyse, justement. Donc on est d'accord, c'est pas l'action de la personne, hein, c'est vraiment comme un rôle modèle. Hein. Moi, comme je dis souvent, je suis pas people, je connais pas, etc. C'est pas lui en tant que personne, c'est plutôt lui en tant que rôle modèle. J'aimerais avoir votre analyse, vu qu'on avait justement des questions sur cette trajectoire du futur. Comment vous analysez celle de ce ministre d'hier qui se lance? J'espère que ça vous plaît comme petit sujet.
Alors c'est pas la personne, on est d'accord, c'est le rôle modèle. Il y a un sujet que tu n'as pas mentionné, c'est que, par ailleurs, Cédrico fait partie du conseil IA.
Tout à fait.
Donc auprès de l'État, auprès de la République, enfin, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Bref. C'est quand même assez simple, il y a un conflit d'intérêts qui est majeur. Quoi. Enfin, je veux dire, moi, je trouve qu'il n'est pas acceptable dans une démocratie saine. Ça me paraît assez limpide, quoi. Tu peux pas à la fois dire que Mistral fasse rentrer un lobbyiste pour se développer, c'est pourquoi pas, s'ils ont raison, enfin, je veux dire, voilà. Tant mieux pour eux, que ce lobbyiste leur amène des financements ou apporte une caution en termes d'influence pour des financements, etc. Tout à fait, c'est normal, enfin, c'est le jeu, ok, mais tu peux pas à la fois faire ça. Et faire semblant d'avoir encore un pied au sein de l'État, participer à un groupe de réflexion niveau étatique, niveau présidentiel sur l'IA. Ça me paraît complètement incompatible. Mais voilà. Faut choisir son camp. Et c'est pas grave, je le dis sans. Mais moi, ça me fait un peu la même chose que, pour prendre un autre exemple, qu'un ancien Premier ministre ou un ancien chancelier qui va conseiller les spécialistes du gaz ou du pétrole russe, quoi. Il y a un moment, c'est un problème, quoi. Il n'y a pas d'autre terme. C'est un vrai problème pour nos démocraties.
Et tu dis, avant que je passe la parole à Valentin, que c'est pas grave.
Non, je dis c'est pas grave de changer. En revanche, on ne peut pas mélanger le rôle. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Il y a des allers-retours qui ne sont pas possibles.
Valentin,
pour avoir travaillé avec l'intéressé quelques années, partagé un bout de cette trajectoire, je m'abstiendrai de commenter sur les trajectoires individuelles, certaines rendant plus tristes, ou en tout cas en disant beaucoup trop sur la trajectoire de notre société. Voilà, je pense qu'il y a une vraie perte de sens. On est dans une décennie où il n'y a pas plus beaucoup de sens, voilà, sauf celle du sens individuel. Donc, je pense que de ce point de vue-là, c'est presque un épiphénomène. Mais pour être un peu plus. Pour élargir la focale, qui est la même, Vaut-il mieux aujourd'hui passer à apostrophe au mot de minuit ou à la grande librairie ou aux anges de la télé-réalité sur Énergie 12? Bon, bah, Cédric O a choisi Énergie 12. Bon, bah, c'est un choix qu'il regarde. C'est Hanouna, c'est une société qui choisit de mettre des valeurs là où, à mon avis, elles n'ont pas lieu d'être. Maintenant, cette trajectoire, il le fait aussi de manière, c'est la sienne, mais c'est aussi lié à ce que valorise la société. Le calcul est le suivant. Il sera plus facile d'impacter la société à la fin de cette trajectoire en passant par cette étape qu'en ne passant pas par cette étape. C'est ça que ça dit. De la même manière que certaines stars sur le retour vont aux anges de la télé-réalité. Hein, on voit Nigel Farage qui va jusqu'en Australie pour être la célèbre Sortez-moi d'ici pour recevoir un chèque d'un million pour participer à ça. Bon. Ces gens se disent que notoriété argent permettent d'influencer plus le débat public que travail lent et patient, académique, scientifique ou mérite ordinaire. C'est ça qui doit nous interroger. Voilà, c'est ça qui doit nous interroger. Alors, Cédric O en est un avatar sur un sujet un peu chaud, mais oui, ça manque pas tous les jours de nous interroger, je pense. Et surtout d'interroger les plus jeunes d'entre nous. Mais finalement, on va dire. On a eu une période, les années 70-80, où les bandits de droit commun, les bracos, étaient très populaires. Hein. L'imaginaire des malfrats qui faisaient des bracos, qui les répartissaient ensuite, puis les générations suivantes pouvaient vivre de ces bracos, puis on oubliait un peu l'origine du braquage. Ben, c'est un peu ça qui perdure aussi un petit peu dans certains comportements, hein, dans les infos. Voilà. On a un problème d'une légère dégénérescence dans nos sociétés aujourd'hui, que ce soit les influenceurs à Dubaï, que ce soit. Voilà. L'influence s'acquiert de manière assez étonnante sur nos sociétés, mais c'est nos likes qui les font vivre. Hein. Donc, c'est aussi, on revient sur le sujet de la culture, de l'éducation du consommateur, de la capacité à discerner les enjeux. Voilà, moi, c'est plutôt ça qui m'attriste. Après. Donc, probablement mieux faire ça que d'être influenceur à Dubaï, ou avoir une trajectoire à la Ousama, on va dire.
Ah ben, on a eu des nouvelles également. Là, il vient de perdre son premier procès. Il ne doit que 7 millions. Donc, tout va bien. Mais c'est vrai qu'on est. C'est vraiment. Moi, je voulais vous amener sur ce sujet-là parce que moi, il m'a quand même beaucoup marqué. J'ai l'impression que tout ça va passer crème dans notre société, tu vois, justement, dans une société dans laquelle on ne remet pas la question des valeurs au centre du village. Et après, tu vois, quand on discute, là, on passe. Notre podcast, à voir pourquoi effectivement on n'arrive pas à construire une vision. Moi, j'y vois un lien effectivement totalement direct. Enfin, je veux dire, la question, c'est quand un ministre de la République, son seul sujet après, c'est effectivement de devenir banquier d'affaires pour faire des culbutes. Bon, bah voilà, on est effectivement dans des questions de rente créées par des effets justement de position. Hein. Un banquier d'affaires, il est au bon endroit et il a la posture pour pouvoir faire des culbutes. Effectivement, c'est tout le contraire, effectivement, que le progrès, le travail et puis une valeur vraiment partagée. Donc, on ne peut pas construire une vision partagée, à mon avis, si tout le monde cherche la culbute. Voilà, parce qu'à un moment donné, forcément, c'est la foire d'empoigne et on ne peut pas construire quelque chose. C'est vraiment, moi, ça me renvoie à ça. Ministre, quand même, c'est pas rien. En termes de rôle modèle, encore une fois, moi, la
Mais
personne, je
pour
m'en.
lier les deux sujets, moi, ce qui m'a toujours étonné dans l'affaire Oussama Ammar que tu viens d'évoquer. Là, on a quelqu'un qui professe la tech, l'entrepreneuriat, le coup d'État, l'investissement en technologie. Et l'argent est allé dans la rénovation d'un manoir en Normandie. Regardez ce que ça dit de l'imaginaire réel de la France. La France a un
Ouais, c'est vrai.
imaginaire de rentier. À la fin, c'est la pierre, c'est du lourd. Voilà. C'est pas. Mais s'il avait pris 7 millions pour les mettre dans une start-up, ça serait presque romantique. Mais c'est dans la pierre, dans l'héritage, dans la transmission. Et il y a toujours quand même ça
En
qui
plus
nous
de la
domine.
pierre qui lui est même contestée, parce qu'il a même fait ça, en plus, sans permis de construire, ça peut même être détruit. Donc, il y a même une... Alors là, du coup, on est en absurdie par rapport à ça. Mathieu, oui, tu veux un dernier rebond peut-être avant.
Ouais, non, c'était juste une micro-remarque, c'est que ce lien à la pierre, c'est pas que en France, hein. Quand tu vois Adam Neumann chez WeWork, lui, il fait le chemin un peu inverse, hein. Il arrive à expliquer que une boîte qui loue des bureaux, en fait, c'est une boîte tech et c'est un réseau social physique. Et il utilise les sommes absolument colossales que viennent déverser des VC peu attentifs dans sa boîte pour acheter à titre personnel, là aussi, de la pierre. Donc t'es pas du tout bon, bah, t'es pas dans l'imaginaire français. Je pense que je pense que la nature du truc, elle est ailleurs. C'est qu'à un moment donné, toujours l'imaginaire, mais que crée en fait la vision de valorisation ou de revenus absolument délirant, ben, rend les gens délirants, quoi. Donc, ça fait faire n'importe quoi.
Et le séparatisme et l'importance que tout le monde dit, tout le monde voit, ces gens voient très bien qu'on va vers un monde entre 1% et 99%, et ils veulent être du côté des 1%. Voilà, bon. Comme tu as une vision assez claire de ça, si tu devais choisir de quel côté tu veux être, bah, tu choisis le 1%. C'est à peu près, oui, je suis à peu près, enfin, tu choisis. En tout cas, tu préférerais que tes enfants soient dans le 1% que dans le 99%. Et je pense que c'est à peu près aussi ce qui guide tout ça. Je suis d'accord, c'est pas uniquement une vision franco-française. Mais quand même, quand on parlait de progrès social et de technologie, on voit bien que pour acculturer à la technologie, pour que les gens aiment la technologie, on passe de décennies de transformez-vous, adaptez-vous, formez-vous, flexibilisez-vous, pour des gens qui, eux, finissent quand même par être dans le très solide, très ancien, très robuste, la pierre, la transmission, etc. On ne donne pas forcément un imaginaire très cohérent non plus. Quelque part, Elon Musk, qui avait vendu toutes ses propriétés pour tout réinvestir dans ses entreprises, au moins avait un mérite, celui de la cohérence dans le discours. Et ce qui n'est pas le cas de beaucoup.
Je voudrais juste rajouter un truc, mais sur un ton, sur un comment dire, sur un angle optimiste, c'est qu'à côté de ça, on a aussi, y compris sur le numérique, en France, à l'Assemblée, au Sénat, quelques personnes qui, un, connaissent le sujet, deux, croient vraiment à leur rôle pour faire progresser la société, pour l'améliorer, etc. Et ça renvoie à un truc que je ne sais plus quel de vous deux évoquer, mais c'est qu'à la fin, tout ça nous interroge, nous, en tant que citoyens. C'est-à-dire que c'est à nous de voter pour les bonnes personnes, pour les gens qui y croient et qui vont effectivement développer le bien commun. Et non pas leur petit nombril et leur petit ego personnel, quoi. Et ça, je trouve que, en fait, c'est assez réjouissant. C'est-à-dire qu'en fait, dans un système démocratique, en vrai, les manettes, on les a. Après, c'est à nous de faire les bons choix et peut-être de voter un peu moins pour, je sais plus quelles émissions tu citais, les anges de la télé-réalité, c'est ça?
Tu les regardes pas assez, Mathieu. Ça, enfin,
C'est ça.
on en a déjà parlé off. Bon, on fait un travail sur Mathieu pour qu'il regarde un peu plus Énergie 12 et les anges en réalité, mais il y a du travail, je peux vous dire. Oui, non, mais il y a plein de choses réjouissantes. Et moi, je finirai là-dessus. On a beaucoup parlé de rôle modèle, là, par exemple, qui sont un peu sombres. Ah, Elon Musk, pour moi, il est sombre. Oussama Hamar, il est sombre. Cédrico, il est sombre. Mais par exemple, on a un rôle modèle en France, par exemple, que moi je trouve qu'émerge avec le temps et que je trouve intéressant, c'est Xavier Niel, par exemple, que je trouve intéressant parce qu'il est, il est, il a une posture plus longue, quelque part plus long-termiste. Quand on regarde, il est rarement excessif dans ses propos à tout sujet. Et je rappelle que là, il commence à empiler les choses, hein, au-delà de son entreprise, de ce qu'il a construit. À titre, on va dire, d'entrepreneur, bah voilà, il a lancé l'école 42, il a lancé Station F, il a lancé, je ne sais plus le nom, le truc dans l'agro.
Truc de.
Ouais, je ne sais pas le nom, je ne me rappelle plus son nom. Et là, il lance justement un laboratoire sur l'IA en payant des chercheurs, et voilà, avec derrière justement une logique industrielle. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce rôle modèle, que souvent. D'ailleurs, justement, comme s'il ne fait pas partie de l'élite, il n'est pas justement issu des grandes écoles, etc. Il est quand même, bon, il a quand même une part de sa famille, hein, il est quand même rattaché à ce qu'est la France, hein, quand même, parce que je crois qu'il est marié, je viens à côté people, une fille de Bernard Arnault. Donc on n'est quand même pas, on n'est quand même pas nulle part. Hein, on n'est quand même pas nulle part. Mais c'est un rôle modèle, moi, que je trouve qui, avec le temps, s'affirme de manière positive par rapport à ça, c'est-à-dire un niveau médian d'ambition, mais aussi de réalité, et non pas que de prédation. Voilà, je trouve que, parce que quand il redonne à l'école 42, il redonne. C'est pas, il prend tout, et en plus, donc je trouve que, voilà, on a des rôles modèles positifs, et je pense aussi, peut-être, c'est eux qu'il faut qu'on mette en avant, voilà, c'est tout simplement.
Et puis, moi, j'en vois deux autres, il y a Clava, peintre de VH, qui porte aussi un peu ça, et puis, il y en a un autre que tu as oublié de citer, qui est extrêmement important, c'est Alain Garnier.
Non, attends, mais je le vois jamais comme ça. Tant que moi je considère être aligné, être un honnête homme avec moi-même, c'est déjà beaucoup, tu vois, justement, après le reste. Mais en tout cas, les rôles modèles, il faut les mettre en avant. Voilà, c'est plutôt ça qui me paraît essentiel dans notre chemin. Mais oui, mes camarades de transition. Voilà, je pense qu'on peut apporter un contre-modèle. Et là, le podcast qu'on a fait, il apporte aussi des clés de lecture par rapport à ça, assez profondes, je crois. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti dans cette heure. Là, plus d'une heure et quart. J'ai pas vu le temps passer.
Merci, messieurs. Effectivement, après une heure et demie, quasiment tout pile de podcast, je vous propose de conclure ce troisième épisode d'Alternative Numérique. Merci beaucoup, Mathieu, Valentin, Alain, d'avoir été avec moi pour ce nouvel épisode. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. Vous trouverez, bien sûr, les sondages vraiment très, très importants par rapport à ce podcast. Est-ce que Mathieu doit regarder davantage Énergie 12 et est-ce que Valentin finira influenceur à Dubaï? Voilà, tout ça, ce sont des questions centrales autour du numérique. Je plaisante, bien sûr. Ça a été un plaisir, messieurs, de réaliser cet épisode avec vous. On se rend compte à quel point le numérique est un sujet de société profond, hein, qui touche à différents sujets. On aura l'occasion, évidemment, d'en rediscuter. Je vous donne rendez-vous, chers auditeurs, à très bientôt pour de nouveaux podcasts. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à notre chaîne Les Voix du Digital pour retrouver les précédents et les futurs épisodes d'Alternative Numérique, mais aussi d'autres émissions. Bonjour les spotters, la revue d'actualité hebdomadaire d'Alain, les podcasts experts, qui est un peu un modèle similaire à Alternative Numérique, où en fait, Alain ou moi-même partons à la rencontre des gens qui, justement, construisent le numérique de demain. Entrepreneurs et autres, pas que. Et voilà, d'autres émissions de ce genre. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux podcasts. Merci encore, messieurs, et à très bientôt.